Sud Radio, le débat de la semaine.
Selon le baromètre IFOP fiduciel pour Sud Radio, sorti aujourd'hui, Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont loin devant leurs concurrents, leurs deux scores réunis représentant la moitié du corps électoral. Xavier Bertrand semble pouvoir être le troisième homme, mais il est encore à une dizaine de points derrière ses deux concurrents. La gauche est au fond du trou, au mieux à 10% des cas, en cas de candidature unique PS-PC-EELV. D'où le débat du jour, un second tour Macron-Le Pen est-il inéluctable ? Avec nous, Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, que vous avez entendu tout à l'heure Philippe. Et qu'on connaît bien sur Sud Radio, et Adrien Matou, journaliste politique à Marianne, auteur du livre « Mélenchon, la chute », publié aux éditions du Rocher. Alors manifestement, depuis le dernier baromètre, les choses n'ont pas beaucoup bougé. C'était il y a 6 mois, Macron-Le Pen, 50% du corps électoral. 6 mois après, pareil. Ce sera la même chose dans un an, Frédéric Dabi, d'après vous ?
Voilà, c'est la vraie réponse, la vraie question que l'on doit se poser. C'est vrai que, on le disait tout à l'heure, Philippe, on a un paysage politique figé, que la crise du Covid a, si je puis dire, amplifié. C'est vrai qu'on teste 11 configurations de premier tour au mois d'octobre. On en teste 10 avec beaucoup de situations différentes. Systématiquement, nous avons Macron-Le Pen, Le Pen-Macron qui serait qualifié pour le second tour avec une addition de leur intention de vote qui dépasse systématiquement 53-55%. Là où il faut être extrêmement prudent, c'est sur le statut d'un sondage. Un sondage ne donne pas le résultat, ce n'est pas une prédiction. On ne connaît pas l'offre électorale. Je vous ai donné l'exemple de 2016. Avril 2016, on fait une très grosse enquête, IFOP fiduciale pour Paris Match et Sud Radio, déjà. Et on a, second tour, Juppé, Marine Le Pen. On a Sarkozy, Marine Le Pen. On a un refus de la revanche Hollande, Sarkozy. Mais là où il y a une vraie différence, c'est d'une part qu'il y a une difficulté terrible pour les anciens partis de gouvernement qui ont connu ce 42 avril, ce double 21 avril en 2017, à pouvoir émerger et à pouvoir dégeler ce paysage politique, même si l'enquête montre quand même extrêmement clairement qu'il y a une percée Xavier Bertrand. Et quand on regarde les seconds tours, Bertrand-Le Pen, voire Pécresse-Le Pen, ils font infiniment mieux qu'Emmanuel Macron. J'arrête de parler, mais il faudra parler d'un point également qui me paraît central. Le duel Macron-Le Pen, ce n'est pas qu'un duel. C'est deux France extrêmement différentes, extrêmement antagonistes sur le plan sociologique.
Et on va en parler, bien évidemment. Adrien Matou, la situation est figée depuis au moins 6 mois. Est-ce que vous pensez qu'elle sera figée dans un an ?
J'ai tendance à répondre oui. J'allais en fait citer le sondage dont Frédéric a parlé, qui en fait montrait qu'en avril 2016, finalement, Alain Juppé devait être président, François Hollande devait être candidat.
Macron n'était pas testé tout le temps.
Macron n'était pas testé, donc voilà. La vie politique française est imprévisible, heureusement d'ailleurs, sinon on s'y intéresserait moins. Ceci dit, la situation paraît beaucoup plus sédimentée qu'il y a 5 ans. D'abord parce que le président sortant, qui sera donc Macron et non pas Hollande cette année, est quand même dans une situation plus solide a priori.
Oui.
Et puis Marine Le Pen semble ne pas trop avoir pâti finalement du fait d'avoir échoué entre les deux tours il y a 5 ans. Elle a, Frédéric Dabi parlait de il y a deux France. On a l'impression que la France populaire, quand on regarde de près les détails du sondage, la France populaire semble majoritairement, en tout cas celle qui vote, acquise à Marine Le Pen. Et on a du mal à voir émerger des candidatures nouvelles. Donc finalement, normalement, il y a une double incertitude sur le niveau de chaque candidat et aussi sur l'identité des candidats. Et là, pour l'instant, on a l'impression, il y a eu 11 configurations, donc on essaie de tester un petit peu tout pour voir s'il peut y avoir du suspense, mais on a l'impression que, quoi qu'il arrive, il y a toujours les mêmes rapports de force.
Justement, on va revenir sur ce dont vous vouliez parler, Frédéric Dabi. Est-ce que finalement, il y avait la fracture sociale en 95, là, c'est pas la fracture française en 2021, entre les personnes âgées qui votent Macron, les jeunes qui votent Le Pen, les cadres supérieurs qui votent Macron, les ouvriers, les employés qui votent Le Pen, les centres-villes qui votent Macron, les ruraux qui votent Le Pen. Est-ce que c'est pas toutes les fractures françaises qui sont résumées ? Il y a quelqu'un que vous connaissez bien, Jérôme Fourquet, qui a écrit un très bon livre, qui s'appelle L'Archipel
plus
français.
Plus qu'un collègue, un ami de 20 ans.
On le salue d'ailleurs, Jérôme. Tout n'est pas résumé là-dedans.
Mais voilà, c'est ça qui est extrêmement intéressant. Je retiens ce terme de fracture. Qu'est-ce qui se passait il y a quelques années à des élections présidentielles ? On voyait des cadres supérieurs, catégorie qui votent plutôt à droite, être tentés par des candidats de gauche. On avait des ouvriers qui votaient par exemple pour le RPR de Jacques Chirac. Là, on a des choses extrêmement fracturé, extrêmement clivé. Alors sur la génération, c'est même encore plus fin que ça. On a un Emmanuel Macron très élevé chez les deux extrêmes du spectre générationnel, les 18-24 ans, génération malgré la crise protégée, les personnes âgées en revanche. Et on en avait déjà parlé ensemble, Philippe, on a une Marine Le Pen, un Rassemblement National extrêmement fort dans les générations charnières qui souffrent le plus, les 25-34 ans, la génération de l'insertion qui, dans le contexte actuel, peine de plus en plus à s'insérer, qui connaît les affres du premier job, le stage qui a été en fait annulé, les galères, les 50-64 ans, cette génération qui, avec la crise, est de plus en plus, plus ou moins gentiment, sortie des entreprises, qui épargne moins, qui voit la retraite avec, non pas comme le repos du guerrier, mais comme la succession, la suite des problèmes, et qui, sur le plan personnel et intime, est confrontée à la dépendance, pas la sienne, celle de leurs parents. On a vraiment ces fractures françaises, on a bien sûr le clivage social, on a aussi croisé les données par la classe sociale subjective. Est-ce que je me considère comme un privilégié, comme quelqu'un d'aisé, comme une classe moyenne supérieure, ou comme quelqu'un de défavorisé? Sans surprise. Plus vous vous définissez comme quelqu'un en souffrance et bas dans cette échelle sociale, plus vous choisissez Marine Le Pen. C'est en ça que ce duel est aussi révélateur de la fracture des deux France.
C'est pas ça, les gagnants et les perdants de la mondialisation, et finalement les rentiers, parce qu'un retraité est un rentier qui ne veut pas que le système s'effondre, parce que sinon il n'a plus rien pour vivre.
Oui, bien sûr. Bah, je me permets de citer une autre référence qui est le bouquin de Jérôme Sainte-Marie, qui avait parlé de deux blocs, le bloc élitaire et le bloc populaire. Et on a vraiment l'impression, de toute façon, le système politique français encourage à la bipolarisation de la vie politique. Donc on a l'impression que les suffrages du bloc élitaire se portent naturellement vers Macron, qui les représente bien, et que les suffrages du vote populaire, alors peut-être que certains espéreraient une autre type de candidature pour les représenter, se portent vers Marine Le Pen. Après, il y a une question à poser pour rebondir sur ce qu'a dit Frédéric, c'est est-ce que l'offre politique des candidats peut modifier leur électorat ? Et on a l'impression que Marine Le Pen, pour élargir son socle, a un discours ces derniers mois qui est moins adressé au bloc populaire, qui est moins eurosceptique, qui est moins social, et qui se concentre exclusivement sur les thèmes identitaires. Donc moi, ça m'intéresse aussi de voir comment les discours politiques des uns et des autres, est-ce que peut-être Macron va chercher à attirer un peu plus l'électorat populaire, est-ce que les discours politiques, et également ceux des autres candidats, peuvent modifier ce rapport de force ? Mais on a l'impression que là, pour l'instant, c'est vraiment les deux France qui se font face et qui vont, encore une fois, se combattre au deuxième tour.
Comme il y a deux gauches irréconciliables, selon Manuel Valls, deux France irréconciliables. Direction le 0826-300-300. Bonjour Ludovic.
Bonjour Philippe, et bonjour à vos invités.
Bonjour monsieur.
Quelle est votre question ou votre remarque pour nos invités ?
C'est plutôt une remarque. Je vous rejoins sur la fracture. J'ai l'impression qu'on a quand même deux blocs qui s'affrontent. On a deux personnages clivants donnés au second tour et qui sont loin d'avoir un semblant de majorité au premier tour entre alors qu'il faudrait au contraire un personnage qui rassemble la France, qui rassemble à la fois les élites et les classes populaires et qui reparle un peu aux Français en termes de souveraineté, d'indépendance, etc. Mais également sur votre sondage, je voulais juste faire une remarque. Xavier Bertrand est donné, je crois, en troisième position.
Absolument, à 16%.
Sachant qu'il me semble qu'il n'y a pas de candidat Les Républicains désigné. Donc, on est un an des présidentielles. Rien n'est fait. On ne sait pas qui va être sur la ligne de départ. On ne sait pas si le Parti républicain va présenter un candidat face à Bertrand, s'il va organiser une primaire. Donc, voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer avec Emmanuel Macron, avec cette sortie de crise, parce qu'on va partir sur une crise sociale et économique très importante. Rien n'est fait, les jeux ne sont pas faits.
Alors, merci.
Et j'espère que nous aurons un personnage vraiment, enfin une personnalité politique qui rassemble et qui fasse adhérer l'ensemble des Français.
Alors, merci beaucoup Ludovic. Réaction très intéressante de Ludovic. Vous êtes 63% sur Twitter à ne pas vouloir d'un second tour Macron-Le Pen. Est-ce que un homme venu de quelque part pourrait arriver et rassembler
ce genre de la nuit, je vois l'image.
Mais qui n'arrivera pas au galop.
Mais oui. Non, mais je partage complètement les prudences de votre auditeur Ludovic. C'est vrai que nous sommes à un an du vote. C'est vrai que aussi, par le passé, on a eu des présidentielles figées sur l'offre un an un an avant. Celle de 88, François Mitterrand était donné gagnant un an, deux ans avant. En 95, même s'il y a eu cette surprise de Jospin en tête au premier tour, on donnait quand même la droite gagnante, mais il y a eu la guerre Balladur-Chirac. C'est vrai qu'il y a cette incertitude. Alors, sur l'offre politique à droite, je précise à Ludovic qu'on a quand même testé quatre scénarios avec Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau, Valérie Pécresse. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'est pas chez LR, d'ailleurs, comme Valérie Pécresse, qui arrive nettement en tête.
Comme Xavier Bertrand.
Comme Xavier Bertrand. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, quand on teste des scénarios d'union de gauche, et c'est un signe révélateur, supplémentaire, de la difficulté de la gauche dans ce sondage, on a beaucoup d'électeurs de gauche qui choisissent Xavier Bertrand pour justement éviter ce second tour Macron-Le Pen. Et ça rappelle 95, où des électeurs de gauche avaient voté Jospin pour qui avait voté Chirac pour éviter une victoire d'Edouard Balladur.
Ah, de Balladur, pardon. Justement, Adrien Matou, quand vous voyez les scores, les encartés LR, Retailleau 6, Wauquiez 7 dans le sondage de l'IFOP, et à gauche, Anne Hidalgo, parti historique de la gauche, le parti socialiste depuis le congrès d'Épinay. C'était il y a 50 ans, on est d'accord. Qui fait 10% en cas de candidature unique avec PS, PCE, LV. Est-ce que vous vous dites que finalement, le clivage droite-gauche, il a complètement disparu ?
Complètement disparu, je ne dirais pas, mais je dirais qu'il a beaucoup perdu de sa pertinence, et surtout de sa domination sur les autres formes de clivage. C'est-à-dire qu'on a une partie du champ politique qui continue à raisonner en termes droite-gauche. On a même des candidats, comme on y reviendra, mais comme Jean-Luc Mélenchon, qui ne le faisait moins il y a 5 ans et qui le font beaucoup aujourd'hui. Et on a l'impression que cette division, particulièrement chez les jeunes générations, elle n'est pas du tout vécue comme pertinente. Il y a d'autres formes de clivage. Alors, le problème, c'est que maintenant, on n'est pas au clair sur le nouveau clivage qui domine. Et du coup, chaque force politique essaye d'en formuler un nouveau qui lui donne l'avantage. Donc, vous avez Macron qui avait dit « on est les progressistes contre les conservateurs ». Vous avez le RN qui dit « on est les patriotes contre les mondialistes ». Ouais. Mais tout ça, c'est des clivages qui ne sont pas vraiment objectifs. C'est vraiment des clivages où c'est un peu « nous, on est les gentils » et en face, il y a les méchants. et donc... Juste. C'est intéressant, parce que, mais moi je pense qu'il faut avoir une analyse fine et voir qu'aujourd'hui il y a plusieurs formes de clivage qui cohabitent. Et je voulais juste rebondir sur ce que disait Ludovic, sur le désir finalement d'un homme qui réconcilierait tous les Français. Ça, c'est intéressant parce qu'on fête le bicentenaire de la mort de Napoléon le 5 mai prochain. Ouais. Ça rappelle aussi un petit peu le général de Gaulle. Mais je pense que cette pulsion, cette envie, elle est compréhensible, mais c'est une illusion. Parce que dans la société française, il y a des rapports de force, il y a des intérêts qui ne sont pas forcément convergents. Et on peut espérer l'avènement d'une figure qui réconcilie tout le monde, mais je pense, malheureusement ou pas d'ailleurs, que ça restera une illusion.
Alors quand on regarde la gauche à 10%, toute mouillée comme on dit, Jean-Luc Mélenchon arrive en tête, au mieux à 12%, mais est-ce qu'il peut être un candidat unique crédible, sachant qu'il perdrait avec seulement 40% des voix face à Marine Le Pen?
Oui, pour moi, c'est vraiment, et je vais laisser Adrien, qui est le spécialiste, Jean-Luc Mélenchon, parler, mais pour moi, c'est vrai.
Il a même écrit tout un livre dessus, je le montre, c'est docteur en mélenchonologie.
Exactement.
Le seul en France.
Bravo, c'est assure une véritable pérennité. Non, ce qui est vrai, c'est que, voilà, on est frappé par deux choses dans ce sondage. Au-delà des hommes et des femmes, c'est le poids de la gauche. Dans toutes les hypothèses, on est entre 25, 27, 28% d'attention de vote pour la gauche, extrême gauche exclue. C'est absolument très faible. En 2012, 40% au premier tour pour Mélenchon, Hollande, Joly. Même en 2007, qui avait été un mauvais cru pour la gauche, l'addition des voix Buffet, Royal, Beauvais, Dominique Voynet dépassait 32-33%. On voit très bien le rétrécissement de l'espace de gauche. Et puis, c'est une victoire à la Pyrrhus, si je puis dire, pour Jean-Luc Mélenchon. Au premier tour, il fait mieux que les autres. Il monte même à 13-13,5% qu'on a cette gauche plurielle unie avec ces candidatures dont vous parliez, Philippe, Hidalgo, Jadot. Mais au second tour, ou le second tour, c'est l'adage pascoyen, on élimine, les Français sont prêts à voter Le Pen massivement, ceux qui votent, parce que l'abstention va être massive, pour éliminer Jean-Luc Mélenchon. Ça en dit long sur son discrédit, ça en dit long sur la dégradation de son image qui a été amplifiée par l'acte lourd de la perquisition qu'on a enregistré dans nos enquêtes de trait d'image. Et clairement, ce n'est pas lui, l'homme de rassemblement dont vous parliez, l'homme providentiel à gauche.
Adrien Matou, il est passé de 18% à 12% en moyenne, c'est-à-dire il a perdu le tiers de son électorat en 4 ans.
Bien sûr, alors après les mélenchonistes vous diront que les sondages étaient aussi pessimistes quelques mois avant, en 2017, mais finalement, bon, il s'en sort pas si mal puisqu'il est en tête de la gauche, mais la gauche est tellement en danger de disparition que finalement c'est, comme vous le disiez, une victoire à la Pyrrhus. Ce qui est intéressant, et à mon avis c'est un petit peu la bombe de ce sondage, c'est le score de 40-60 contre Le Pen au second tour, sachant qu'en 2017 il avait été testé pendant la campagne et qu'il l'emportait largement contre Le Pen, 57-43 en 4 second tours. Donc c'est quand même intéressant de voir qu'il est devenu
renversement repoussoir. De situation.
C'est ça.
Direction le 0826 300 300, une ville magnifique anglaise au Pays Basque. Bonjour Christian.
Bonjour, je sais que vous êtes un érudit, un fou de là du Pays Basque.
Bah, Ongietori, alors bienvenue.
J'allais vous le vous me l'enlevez de la bouche, mes escarres. Bon.
Votre question, oui, Christian, pour Frédéric Dabi et Adrien Matou.
Oui, alors messieurs, bonjour.
Bonjour monsieur.
Écoutez-moi, ça fait un bout de temps que je réfléchis, j'ai un certain âge, j'ai 66 ans, j'ai connu quelques présidents, on va dire. Et là, je suis un petit peu, à contrario de tout ce que j'entends aujourd'hui, je me demande si Macron va aller jusqu'au bout. Je me demande, avec tout ce qui s'est passé, les histoires qu'on connaît par cœur, est-ce qu'il va... se dire, bon ben stop, j'en ai fait un peu de trop, j'arrête, c'est pas possible, j'aille me représenter de nouveau devant les Français avec alors, tout le bazar qu'il y a eu aujourd'hui.
Christian Mileschkel, je vous remercie en basque, et justement, j'avais prévu une question à nos amis. L'hypothèse Édouard Philippe n'est pas dans votre sondage. Est-ce qu'il pourrait être le... Vous êtes des fans de foot tous les deux, le super substitute, le super remplaçant.
Voilà, je ne sais pas quel numéro il porterait, mais c'est merci vrai que Christian. La remarque de Christian est très intéressante et elle est révélatrice de l'époque. Ça montre à quel point le précédent François Hollande a, je dirais, imprégné une partie de l'opinion publique. Qu'est-ce qu'il y avait, je dirais, dans le cœur des Français et dans leur perception sur les présidents sortant automatiquement? Il se représentait pour un deuxième mandat. On a retrouvé une lettre de Georges Pompidou qui écrit, je ne sais plus à qui, où il dit « Je ne serai pas candidat en 1976 », c'était le septennat, mais si Mitterrand, il devait dire Mitran, est en situation de l'emporter, je serai candidat. Donc c'est vrai, c'était quelque chose qui était automatique. Tout le monde pensait qu'Hollande serait candidat, il ne l'a pas été. Donc on se pose des questions sur le président Macron. À titre personnel, je pense absolument à 100% qu'il sera candidat, mais c'est vrai que c'est le président des crises et il y a des questions.
Adrien Matou, vous qui portez la barbe, à votre avis, Emmanuel Macron, il pense à se représenter et pas seulement en se rasant?
Oui, bah j'espère pour lui qu'il y pense quand même. Alors c'est intéressant parce que son entourage se plaît justement à instiller l'idée qu'il pourrait ne pas se représenter, etc. Mais moi j'y vais plus une espèce de dramatisation de la situation. En tout cas, s'il était amené à ne pas se représenter, effectivement, Édouard Philippe, à mon avis, serait un petit peu le candidat naturel qui est sur le même logiciel politique, qui aurait le même électorat. Ceci dit, voilà, j'ai vraiment du mal à imaginer, surtout que Emmanuel Macron voit les sondages et il peut se dire d'une part qu'il est quand même plutôt en bonne posture, puisqu'il est quand même en position d'accéder au second tour assez confortablement. Et en plus, là, c'est un petit peu le même raisonnement que Pompidou qui veut faire barrage à Mitran, qui ne veut pas que les chars soviétiques défilent sur les Champs-Élysées. Il pourrait se dire, Emmanuel Macron, qu'il a la responsabilité d'empêcher Marine Le Pen de devenir présidente.
Vrai sujet, on aura encore beaucoup de débats à faire sur la présidentielle dans les un an qui reste. Merci beaucoup à vous, Frédéric Dabi, directeur Merci. Général adjoint de l'IFOP. Adrien Matou, journaliste politique à Marianne, auteur du livre « Mélenchon, la chute », publié aux éditions du Rocher. Un excellent livre, soit dit en passant. Verdict sur Twitter, vous êtes 63% à ne pas vouloir d'un second tour Macron-Le Pen. Dans quelques instants, Osez investir avec Thomas Binet qui reçoit Vincent Pavanello, expert immobilier et cofondateur de la Maison des Mandataires, et Charles Becbédé dans le club Entrepreneurs et Investisseurs. Restez bien avec nous sur Sud Radio.